Bonjour, bonsoir les amis, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Une fois de plus, confiné à mon domicile comme mesure préventive pour isoler le virus de la Covid-19, qui vous parle, Eric Domergue, je renoue le contact avec vous dans ce nouveau programme de RAE, l'Argentine vers le monde, en 8 langues. Avec la production de Sylvain Avellaneda, Julien Cortés, responsable du site web, sous la direction de Adrien Corol. Jour à jour, nos auditeurs peuvent trouver le rapport officiel sur la santé présenté par le gouvernement argentin sur notre site web www.rae.com.ar. Il figure également les horaires de transmission par onde courte, alors que, en streaming quotidiennement, vous avez accès à la programmation commune de Radio Nationale Argentine sur la plupart des signaux AM, FM et RAE. Et ne manquez pas d'envoyer vos rapports de réception à qslrae@gmail.com. En outre, je vous invite à visiter la chaîne YouTube de RAE, l'Argentine vers le monde, où vous pouvez trouver une partie des productions et des contenus réalisés par toute l'équipe qui constitue le signal international des médias publics en Argentine. Et maintenant, place à l'actualité. En Argentine, avec une quarantaine établie jusqu'au 10 mai, tous les yeux sont tournés vers les mesures que le gouvernement d'Alberto Fernández prendra dans les négociations avec les détenteurs d'obligations étrangers qui refusent d'accepter que la situation du pays soit critique pour le paiement de la dette. Dans ce contexte, le gouvernement a reçu lundi un soutien politique fort de la part de différents secteurs sociaux, commerciaux et d'affaires, afin de souligner à l'étranger que dans le pays, les secteurs productifs sont alignés sur la politique officielle. En outre, au cours de cette semaine, des mesures sociales ont été prises pour soulager la situation de millions de personnes dont les revenus et les emplois ont été affectés par la quarantaine, afin d'éviter une forte augmentation du nombre de cas de coronavirus dans la population. Dans un communiqué de presse, le président Fernández a remercié le soutien des employeurs et des travailleurs, et il a qualifié d'historique l'accord salarial signé par les parties la semaine dernière, qui prévoit le versement de 75% des salaires des travailleurs dont les activités sont suspendues. Toujours à propos de la proposition argentine de renégociation de la dette, il a expliqué que son gouvernement cherche une solution pour toujours qui durera et qui ne nous fera pas reculer, car nous devons tirer les leçons que ce temps nous a données, notamment celle de pousser dans la même direction. Cette situation historique mondiale marquera également une étape importante dans le pays avec la première session virtuelle du Sénat de la Nation prévue pour le 13 mai et présidée par la vice-présidente du pays, Cristina Fernández de Kirchner. Par ailleurs, le mardi 5, une vidéoconférence a eu lieu entre le président Alberto Fernández et le directeur de la Banque latino-américaine de développement, Luis Carranza Ugarte, qui a annoncé le soutien de l'institution à l'Argentine par le biais d'un financement de 4 milliards de dollars pour promouvoir les politiques sociales et la réactivation économique, montant qui sera versé en 4 ans. Au cours de la conversation, le président Fernández et Carranza Ugarte ont discuté des projets qui seront réalisés au cours de l'année 2020, en mettant l'accent sur les questions sociales et avec un fort impact sur les provinces et les municipalités. Les fonds alloués aux infrastructures comprennent des initiatives telles que la construction de 103 nouveaux bâtiments éducatifs, la remise en état de 130 km de route, l'avancement de la rénovation de la voie ferrée du Belgrano Sur, le développement de travaux d'intégration socio-urbaine et la mise en œuvre d'un projet visant à améliorer l'approvisionnement en eau dans la province de Buenos Aires. Pour connaître un peu mieux notre travail pour la radio en temps de confinement, voici un rapport détaillé de Silvana Avellaneda, productrice générale de RAE, l'Argentine vers le monde.
Radio Nacional, como un medio público, tiene la función fundamental y primordial de comunicar.
Radio Nacional, en tant que média public, a la fonction fondamentale de et primaire de communiquer, d'informer, si l'on tient compte du fait que le droit d'être informé et de communiquer est un droit constitutionnel. Et compte tenu de l'immensité du territoire argentin et des fossés qui existent en Argentine tant au niveau de l'accès numérique qu'au niveau de l'accès d'autres médias plus modernes, tels que la télévision et les communications par satellite, la radio continue d'être prépondérante pour la communication et l'information dans les régions éloignées. Bien que dans les grandes villes, on parle d'éducation virtuelle et d'accès aux technologies comme moyen de récupération des classes pour les enfants qui sont socialement isolés et ne vont pas à l'école, dans une grande partie de l'Argentine, par exemple dans le nord et le nord-ouest, et des régions éloignées du sud-pays en Patagonie, cette circonstance d'accès numérique n'existe pas. La pandémie a mis en évidence ces écarts en matière d'accès et d'inclusion dans le pays. Et dans ce contexte, la radio fonctionne comme un espace fondamental de communication et d'arrivée de contenu pour toute cette population qui est loin de l'accès numérique. Ce contenu éducatif est géré par de nombreux enseignants par l'intermédiaire de petites stations de radio communautaires pour envoyer le contenu et être en contact avec les élèves, comme c'est le cas dans l'impénétrable Chaqueño, par exemple, où une enseignante se rend dans un petit village à environ 800 km de la ville de Buenos Aires, et à partir de cette petite station de radio communautaire, tous les jours à midi, heure argentine, elle dispose de l'heure de l'enseignante. Elle transmet alors tous les contenus à ses élèves qui, à leur tour, peuvent communiquer avec elle par le biais de la même radio. C'est l'un des avantages de la radio comme moyen de communication et comme garant permanent de la communication et l'inclusion sociale dans un territoire aussi vaste et inégal que l'Argentine, où nous avons encore beaucoup de dettes en attente pour l'inclusion sociale.
Pendiente para la inclusión social.
Fondamentalement, nous nous efforçons de montrer ce qui se passe en Argentine et nous essayons d'en trouver les différentes facettes et pas seulement de télécharger le rapport du matin que le ministère de la Santé fait sur le nombre de personnes infectées dans le pays chaque jour. Donc, de ce point de vue, nous essayons de trouver des limites. Je veux dire ce qui se passe au niveau de la pauvreté et de la récession. Ce qui se passe au niveau de la violence de genre dans cet enfermement obligatoire auquel de nombreuses familles sont exposées, quelles sont les alternatives pour répondre aux revendications des détenus qui ont provoqué des émeutes dans des prisons en Argentine. Et tout cela dans la perspective d'un travail à domicile, en utilisant dans la plupart des cas l'audio par le biais de WhatsApp, en contactant des fonctionnaires et des dirigeants des organisations sociales avec cette proposition. La diffusion se fait par le web où on met à jour les statistiques sur l'état de la pandémie dans les pays. Ce que cela nous montre, c'est que dans tout ce contexte, nous avons essayé de soutenir le travail de la RAE et de défendre le travail d'un bureau que, jusqu'à aujourd'hui, a été souvent contesté. Voilà pourquoi il est important de maintenir un signal international. Parce qu'avec la radio et un espace de diffusion, grâce au streaming, qui est une migration qui se produit également dans le monde entier, nous pouvons apporter des informations de première main, préparées et présentées par des professionnels tels que les membres de nos équipes sur ce qui se passe dans le pays. Et c'est aussi une perspective différente qui tente d'approfondir la question que, bien que la pandémie est une situation qui touche tout le monde sous les mêmes prémices de mortalité et de niveau de contagion, selon les idiosyncrasies et selon chaque gouvernement, les modalités d'isolement, de la prévention et de respect de cet isolement social ont varié. Voilà donc la perspective que nous souhaitons montrer.
Entonces esa es la perspectiva que nos interesa mostrar.
Face à la pandémie, l'Argentine a mis en place une chaîne logistique depuis la Chine pour les fournitures médicales. Nous partageons deux rapports de la rédaction du journal de CGTN en français.
L'Argentine a pris la décision de procéder à un verrouillage complet dès le début et jusqu'à présent, elle a empêché la propagation généralisée des infections par le coronavirus. Ces politiques contrastent avec une approche plus laxiste du Brésil et du Chili. Le ministre argentin des Affaires étrangères a déclaré à la CGTN qu'il était préoccupé par la manière dont les pays voisins luttent contre la menace.
Je suis inquiet. Cela nous oblige à garder nos frontières fermées et à faire attention, étant donné que tous les pays n'ont pas la même approche face à la pandémie. Il y a des attitudes différentes et il y a un débat absurde sur l'économie ou la santé. Vous ne pouvez pas réparer les vies. les pertes économiques peuvent être réparées.
Le système de santé argentin manque de fournitures, mais la rareté et l'augmentation soudaine du coût des équipements de protection sur le marché l'ont conduit à se tourner vers la Chine. La compagnie aérienne nationale argentine Aerolíneas Argentina a jusqu'à présent organisé 8 vols pour effectuer l'aller-retour de 60 heures entre Buenos Aires et Shanghai pour ramasser et charger du matériel médical. Le tout premier de ces vols est arrivé ici, à l'aéroport international de Buenos Aires, samedi matin. Chacun de ces vols transporte environ 13 tonnes d'équipements de protection.
L'idée se situe entre 3 et 4 vols par semaine en raison de la forte demande d'équipement médical pour le pays. Nous envisageons de retirer les sièges des cabines pour avoir plus d'espace dans ces vols.
Ces fournitures médicales comprennent des dons de la Chine ainsi que des achats effectués par la province fortement peuplée de Buenos Aires. Le ministre argentin des Affaires étrangères dit qu'il y a des discussions avec les pays européens, mais que la Chine a été la première à offrir son aide pendant la pandémie.
Ce qui est important, c'est de savoir si vous aidez ou non, comment, quand et combien. C'est la seule chose qui compte, les faits. Les interprétations sur le fait qu'il s'agisse de diplomatie sanitaire ou de motivation politique n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est une action concrète.
Alors que l'hiver dans l'hémisphère sud approche, l'Argentine se précipite pour s'approvisionner en équipement et attend l'arrivée de plus de fournitures.
Le président chinois Xi Jinping a déclaré que son pays était prêt à continuer de partager son expérience en matière de prévention et de contrôle du Covid-19 avec l'Argentine et à lui offrir une assistance dans la mesure de ses moyens. Le président s'exprimait ainsi lors d'un récent échange de messages avec son homologue argentin Alberto Fernandez. Dans son message, M. Fernandez a apprécié le fort soutien de la Chine et a déclaré que la Chine avait fait preuve d'un leadership fort et de capacité d'innovation au cours de sa lutte contre le Covid-19, donnant l'exemple à son pays. Il a également affirmé que la Chine possédait l'expérience anti-épidémique la plus professionnelle au monde.
À la différence de l'Argentine, le Brésil du président Jair Bolsonaro minimise la dangerosité du virus et refuse d'appliquer les consignes de confinement de l'Organisation mondiale de la santé. Le programme Le dessous des cartes de Arte nous en parle, une réalisation d'Émilie Aubry.
Tristeza não tem fim, felicidade sim.
Ah, felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar.
A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata.
Chers amis du Dessous des Cartes, voici Covid-19, une leçon de géopolitique réalisée avec les moyens du bord en période de confinement. Et aujourd'hui, nous allons zoomer sur le Brésil. Dans un instant, nous serons en ligne avec Aurélien Francesco Barros, réalisateur franco-brésilien, qui nous donnera des nouvelles du pays de Jair Bolsonaro, le président d'extrême droite du Brésil, pour qui, je cite, « ce Covid-19 n'est qu'une petite grippe ». Vendredi soir, il s'est adressé à la télévision pour expliquer qu'il n'était pas question qu'il demande des mesures de confinement, qu'il n'était pas question d'interrompre l'activité économique de son pays. Un Bolsonaro cynique, darwinien, qui a dit « oui, c'est vrai, il y aura des morts, mais c'est la vie ». Bolsonaro qui a simplement demandé aux plus de 65 ans de rester chez eux. Alors bien sûr, on peut imaginer les ravages que pourrait faire dans ces prochains jours, ces prochaines semaines, le Covid-19 dans un pays qui se caractérise par ses inégalités, on y reviendra tout à l'heure, mais aussi, et c'est ce qu'on va commencer par voir, par son immensité territoriale et une très forte densité de population dans ces mégapoles.
Le Brésil est d'abord un géant par son territoire et par sa population. Situé en Amérique du Sud, c'est le 5e pays du monde par sa superficie. Avec ses 8,5 millions de kilomètres carrés, il occupe à lui seul la moitié de l'Amérique du Sud et possède 15 720 kilomètres de frontières avec quasiment tous les pays du sous-continent. Son littoral s'allonge sur plus de 7 400 kilomètres sur l'océan Atlantique. Le pays est découpé en 26 États, plus le district de la capitale, Brasilia. Ancienne colonie portugaise, le Brésil compte aujourd'hui 210 millions d'habitants, dont la langue est le portugais. Dans la population, on compte plus de 47% de descendants d'Européens, plus de 7% d'origine africaine issue de l'esclavage, un peu plus de 1% d'Asiatiques, 0,4% d'Amérindiens, et le reste de la population, soit près de 43%, est fortement métissée. Une population qui se concentre le long des côtes, où se situent aussi les grandes villes de Fortaleza, Salvador, Recife et surtout Rio et São Paulo, la capitale économique du pays.
São Paulo et Rio de Janeiro, deux États parmi d'autres où les gouverneurs ont décidé de désobéir à Bolsonaro et d'imposer des mesures de confinement. Une rébellion des autorités locales qui a beaucoup déplu, bien sûr, au président brésilien. Il l'a fait savoir sur Twitter. Et d'ailleurs, il s'est passé quelque chose d'historique. Twitter a décidé de supprimer ses tweets du président Bolsonaro. C'est une première. Twitter qui supprime les tweets d'un président en exercice de l'une des plus grandes puissances du monde. Twitter qui a d'ailleurs fait savoir que désormais, il serait vigilant et supprimerait les contenus qui vont à l'encontre des préconisations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il faut dire, et on l'a déjà dit tout à l'heure, que tout le monde s'inquiète beaucoup de ce que pourrait donner ce Covid-19 au Brésil, dans ce pays qui se caractérise aussi par ses inégalités.
Le pays connaît une croissance de seulement 1% et un chômage de 13%. Cela peut s'expliquer par le fait que le Brésil reste l'un des pays les plus inégalitaires au monde. En 2015, les 10% les plus riches bénéficient à eux seuls de plus de la moitié des revenus du pays et sont constitués à 70% de blancs. Aujourd'hui, si les inégalités perdurent, c'est aussi parce qu'elles vont de pair avec un déséquilibre territorial. Les régions les plus blanches, le sud et le sud-est, sont aussi les plus riches, avec notamment ce triangle de 30 millions d'habitants formé par São Paulo, Rio de Janeiro et Belo Horizonte, des métropoles qui concentrent les espaces décisionnels. À l'inverse, regardons maintenant le nord-est, deuxième région par son étendue et par sa population avec 55 millions d'habitants, mais son PIB ne dépasse pas 13% de la richesse nationale. Seule la zone côtière est dynamique, c'est la région la plus métissée, où la part des sangs mêlés dépasse les 2/3 de la population.
Voilà pour ce petit rappel géographique sur le Brésil des inégalités. Nous sommes maintenant en ligne avec Aurélien Francesco Barros. Bonjour à toi Aurélien, tu es réalisateur franco-brésilien, tu as beaucoup travaillé sur le Brésil, pays dans lequel tu as vécu de nombreuses années. Alors c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une situation très singulière au Brésil avec ce Covid-19, avec d'un côté un président Bolsonaro qui parle d'une petite grippette, qui refuse tout confinement, toute réduction de l'activité économique, et puis de l'autre, des gouverneurs qui, eux, tiennent à appliquer les consignes sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé.
cette dichotomie-là, cette schizophrénie, qu'est-ce qu'elle nous dit du Brésil d'aujourd'hui ?
Émilie, ce qu'elle nous dit, cette dichotomie, c'est que la situation est tendue au Brésil, parce que le Brésil, même si c'est un État fédéral comme les États-Unis, chaque État dépend énormément du pouvoir fédéral, donc du président, pour notamment obtenir des fonds, des prêts, pour financer leur politique au niveau local. Et donc, si eux décident de s'opposer au président, ce n'est pas anodin. Ils encourent des restrictions, ils encourent des pénalités. Et là, en l'occurrence, c'est unique dans l'histoire du Brésil. Il faut savoir que le ministre de la Santé actuel du Brésil, Mandetta, est totalement opposé au président. C'est lui-même qui n'hésite pas à dire au gouverneur de faire cette désobéissance au niveau fédéral. Et le tribunal fédéral décide de donner raison en ce moment au gouverneur contre le président du Brésil.
Que pourrait donner le Covid-19 dans ce pays gigantesque et dans ce pays qui est vraiment celui des inégalités ?
Alors au Brésil, il y a plusieurs types d'inégalités. Il y a des inégalités spatiales déjà, c'est un pays qui est très inégalement peuplé. Donc il y a des régions où pour trouver un hôpital avec un lit de réanimation, il faut faire plus de 1000 km, donc ça c'est un problème, ce sera un problème. Et il y a aussi une question d'inégalité au niveau des soins, de l'accès aux soins des populations, pour les populations les plus vulnérables, les plus pauvres. Le Brésil, il a pas mal de lits en réanimation, il est un des mieux lotis, il est même mieux loti que la France en termes de nombre de lits en soins intensifs. Il a 60 000 respirateurs à peu près, ce qui est plus que la France, mais en proportion et moins par rapport au nombre d'habitants. Le gros problème qui va se présenter au Brésil, c'est que la plupart de ces unités se trouvent dans des hôpitaux privés. Et ça, c'est la grande différence. Et à partir du moment où la crise va arriver auprès des populations les plus vulnérables, les plus pauvres, qui n'ont pas accès à ces hôpitaux-là, on ne sait pas ce qui va se passer. Et là, c'est la grande inconnue. Il n'y a pas encore de politique, vu qu'il n'y a pas de politique générale sur la gestion de la crise au niveau national, il n'y a aucune politique qui est prise, aucune décision qui est prise pour l'instant pour faire face à cette éventualité où il y aurait des gens pauvres qui seraient atteints du Covid et qui auraient besoin de ces lits qui sont dans le secteur privé.
Quand tu lis les journaux brésiliens en ce moment, que tu suis les médias brésiliens en ce moment et d'après ce qu'on te raconte, qu'il faut parler d'un pays fracturé entre ceux qui ont envie de croire le président Bolsonaro lorsqu'il leur dit que c'est une petite grippe et ceux qui, au contraire, s'affolent de voir un président sous-estimer à ce point le danger du Covid-19.
Alors, non, j'ai pas l'impression de sentir un pays fracturé. J'ai l'impression que le président, il a juste envie de répondre en ce moment à son aile ultra, qui le suivront jusque dans la tombe, c'est le cas de le dire. Mais sinon, il y a une assez grande majorité des gens qui sont contre cette politique. Ils perdent énormément d'appui, notamment un de ses plus gros appuis historiques, qui est le gouverneur de l'État de Goiás, qui est un des patrons de l'agrobusiness au Brésil, l'a condamné publiquement. Il est condamné publiquement par ses différents appuis. Énormément de gouverneurs qui, avant, le soutenaient, notamment dans les États de Rio, São Paulo et donc de Goiás, près de Brasilia, ne le soutiennent plus. Tous les soirs au Brésil, à 8 heures, comme en France, tout le monde ouvre la fenêtre et tape sur des casseroles. Mais là, c'est pas pour soutenir les équipes soignantes, c'est pour dénoncer la politique du président et pour crier « Fora Bolsonaro », donc « Dehors Bolsonaro ». Et c'est quelque chose qui est en train de se répandre énormément dans le pays.
Merci beaucoup Aurélien Francesco Barros d'avoir été en ligne avec nous.
Tristesse não tem fim, felicidade sim. Tristesse não tem fim, felicidade sim.
Que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra.
para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou de jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. Sempre